France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Bruno Messina.
Elsa Boublil.
Où finit la musique, la barbarie commence.
Hector Berlioz.
Extrait de la bande originale du film Plein soleil de René Clément et composé par Nino Rota, revisité par les excellents Vincent Courtois, Daniel Erdmann et Robin Finker. Pour vous accueillir, Bruno Messina, directeur du Festival Berlioz et chargé par le ministère de la Culture du 150e anniversaire de sa mort, lauréat du prix Villa Médicis hors les murs, vous avez été professeur d'ethnomusicologie au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et professeur d'art de civilisation et d'histoire de la musique au CNSMD de Lyon. Bonjour Bruno Messina.
Bonjour.
Beaucoup d'autres cordes à votre arc qu'on va pouvoir découvrir au cours de cette émission. Mais je voulais parler tout de suite de cette tarentelle pour vous saluer et faire résonner cette phrase de Berlioz que vous avez citée en ouverture d'émission. Où finit la musique, la barbarie commence. Car puisse-t-elle cette musique évoquer avec autant d'étourdissement le soleil italien et mafieux? C'est possible que le soleil soit mafieux. Elle est toujours là pour ne pas nous faire sombrer dans le chaos. C'est ce que ça veut dire, cette phrase?
Oui, je crois que c'est ce que ça veut dire. Et puis la phrase est d'une actualité encore saisissante, hein, quand on voit les extrémismes qu'il peut y avoir ici ou là sur la planète. C'est toujours la musique qu'ils interdisent en premier. Mmh. C'est toujours ce qui me fascine chez Berlioz, c'est ce côté visionnaire. C'est quelqu'un qui savait avant les autres et qui voyait avant les autres. Et puis cette musique, en effet, la tarentelle qu'on a entendue, moi,
de Nino Rota me
renvoie immédiatement à l'enfance et au contexte familial, parce que c'est l'Italie du Sud et c'est là d'où vient une partie de la famille.
Oui, c'était choisi à dessein. J'espérais que vous danseriez, mais je ne vous ai pas vu danser.
Oui, mais parce que c'est une tarentelle revisitée, hein, sinon j'aurais dansé, évidemment.
Bon, d'accord. Donc, on va avoir l'occasion de reparler, bien sûr, de l'Italie, de la tarentelle, parce que les racines italiennes sont très proche, très forte en vous. Votre nom, Messina, déjà, qui est un nom sicilien.
Oui, c'est le nom de la ville en Sicile, là où il y a le détroit aussi de Messina, oui.
Et cette aventure autour de Berlioz, qui est très d'actualité, puisque cette année, nous allons célébrer le 150e anniversaire de sa mort, là, puisque nous sommes en 2019, que vous sortez un livre chez Actes Sud, extraordinaire, hein, d'ailleurs, comment on peut appeler ça? Une biographie de Berlioz, c'est ça,
Bruno Messina? C'est une biographie, absolument. Alors, le pari, c'était de faire tenir toute sa vie en peu de pages, finalement, parce que c'est une collection, il y a 160 pages, et du coup, c'est une biographie très tonique qui avance avec lui, qui est
romancée,
à côté de lui.
Romancée, peut-être, en tout cas, on a l'impression vraiment d'être avec lui. C'est vraiment joliment écrit, on n'est pas simplement dans la biographie, on est dans ses émotions.
Alors, il n'y a rien d'inventé, donc c'est pas une fiction, mais on essaye en effet d'être à côté de lui.
Donc, de l'Italie, beaucoup de Berlioz, le programme s'annonce très joyeux avec vous, Bruno Messina, ce matin, sur France Musique, dans Musique et moi, jusqu'à midi et demi. Wynton Marsalis interprète avec l'ensemble Avant Eastman les variations sur le Carnaval de Venise de Jean-Baptiste Arban. Alors, il y a des liaisons, des arpèges, des intervalles à se faire dresser les cheveux sur la tête, Bruno Messina. C'est hyper technique.
C'est hyper technique, c'était ce qu'on jouait avec les harmonies et c'était un petit peu les morceaux de bravoure pour les cornettistes. Moi, j'ai commencé avec cet instrument, avec le cornet à piston.
Ah bon, pas avec la trompette?
Et non, on commence avec le cornet à piston. En tout cas, à l'époque, on commençait toujours avec le cornet à piston. Toutes les générations, ça a plus ou moins disparu, mais c'était une vraie tradition française. D'ailleurs, chez Berlioz, c'est du cornet à piston. Et jusqu'à Stravinsky, on trouve fréquemment le cornet à piston. Et ensuite, il est remplacé par la trompette. Et c'est le même instrumentiste qui joue les deux instruments. Mais il y avait toute une tradition de virtuosité avec cet instrument. Et moi, je jouais ça
Mais pas petit, quand même.
Assez jeune, parce que dès l'âge de 13-14 ans, j'étais très avancé au conservatoire de Nice. Et on allait le dimanche en famille. Mon père jouait dans l'harmonie municipale. Et nous, on a commencé à partir de ce moment-là. Je dis nous, parce qu'il y a aussi mon frère clarinettiste.
Patrick Messina.
Qu'on connaît bien. Ma sœur flûtiste, Karine. Et donc, toute la famille à tour de rôle. Moi, je suis l'aîné. Donc, après, les autres sont arrivés après, mais on était invités.
Et votre père, il jouait de quoi ?
Et papa jouait de la clarinette, de la petite clarinette mi bémol aiguë, il était un peu le spécialiste, et quelquefois il allait aussi à l'opéra en jouer, parce qu'à l'époque c'était pas des postes titulaires, donc il faisait ça à côté de son travail.
Comme ça, tout simple. En amateur.
Oui, en amateur, parce que l'immigration avait pas permis à mon père de faire la carrière de musicien. Moi, je suis le premier né en France, papa c'est un Sicilien de Tunis, maman c'est une Espagnole de Casablanca, donc c'est en miroir comme ça autour de la Méditerranée.
Ouais. À Nice,
on a grandi à Nice, et moi je suis le premier né dans cette ville qui était quand même la plus au soleil possible pour la France, c'était bien.
Et avec l'harmonie municipale, vous jouiez où ?
Alors on jouait tout l'été, c'était au kiosque, tous les dimanches, oui, jardin Albert Ier, sur la promenade des Anglais, il y avait un tas de monde, hein. C'est vraiment des rendez-vous très courus, ça continue je crois encore, mais c'était vraiment une tradition, tout le monde passait par l'harmonie municipale quand on était dans les classes d'instruments avant. Et puis certains qui étaient plus virtuoses que d'autres pouvaient jouer comme ça en soliste, et moi j'ai commencé très tôt et ça a été une très très bonne école.
On
se produit en public en permanence, et tous les dimanches l'été dans le jardin Albert Ier, et puis l'hiver c'était dans les églises autour de Nice, et ça a été ça jusqu'à mes 16 ans et l'entrée au conservatoire de Paris
à 16 ans. Donc Bruno Messina, c'est vous qui avez choisi la trompette, enfin le cornet à piston,
oui. C'est moi qui ai choisi la trompette avec... On a commencé par le piano parce que papa voulait qu'on ait une vision de la musique verticale. Il avait la conscience de l'harmonie et il disait que c'était comme ça, c'était les bases. Mais ensuite, très vite, on est tous allés vers finalement une sorte d'atavisme populaire, tous vers les instruments avant, trompette, clarinette et flûte.
Léger, facile à transporter donc on peut aller partout aussi quand on est exilé.
Absolument. Thank you.
Arthur Rubinstein interprète le Nocturne numéro 2 en mi bémol majeur, opus 9 de Frédéric Chopin. Bruno Messina, c'est, on parlait de piano, la verticalité du piano que votre père estimait importante pour vous. C'est donc le premier instrument que vous avez pratiqué?
Oui, c'est le premier instrument que j'ai pratiqué, pas très longtemps, parce qu'il y avait dans la salle d'à côté un professeur de trompette truculent, Gaston Cagnon, qui était un monsieur, c'est impensable aujourd'hui. Il avait 110 élèves dans sa classe de trompette, il s'occupait de l'harmonie municipale, des pompiers, et on passait les journées dans la classe de trompette. Maman venait, il y avait les autres mamans qui étaient là, ça mangeait, ça discutait, ça riait, il faisait tout le temps des blagues, ce monsieur. Et ça a été mon professeur de trompette, et en fait, c'est lui qui m'a attiré. Il était tellement gentil, et voilà, par rapport à l'austérité du piano et des professeurs de piano. Et puis voilà, donc je me suis senti bien tout de suite là-dedans. Et puis derrière, ça a été pareil pour mon frère avec la clarinette ou pour ma sœur avec la flûte. Mais néanmoins, à la maison, il y avait peu de disques, parce que voilà, c'était une famille modeste. Mais il y avait quelques disques qui m'ont marqué pour la vie, et notamment Chopin. Il y avait ces enregistrements de Chopin que mon père écoutait très
par
religieusement.
Rubinstein, hein?
Oui, oui. Alors c'était toujours très religieusement. C'était le soir comme ça. Les lumières étaient éteintes. Il s'asseyait comme ça et on entendait ça. Il y avait les 32 sonates par Ivnat.
Il y a quelque chose de mélancolique quand même dans ces nocturnes.
Ah oui, alors il y a quelque chose de mélancolique et très italien, parce que finalement la phrase chez Chopin, elle est très c'est du bel canto, hein. Il y a quelque chose qui est du même ordre, et en effet ça conciliait bien. C'était une chose dans la famille très étonnante, c'est qu'il n'y avait pas de frontière entre les musiques. On passait très volontiers de la chanson populaire, de la chanson napolitaine par exemple. On entendait beaucoup de chansons napolitaines, ou même mes oncles, quand ils venaient à la maison, on finissait les repas, c'était les grandes tables, voilà, comme on imagine, comme ça. Donc il y avait ma grand-mère palamertaine, mon grand-père qui avait été pianiste de jazz à Tunis, qui avait fait danser Tunis quand il était jeune. Et puis quand on finissait les repas, il y avait toujours un oncle qui se levait pour chanter, et il pouvait chanter indistinctement un air du répertoire lyrique ou une chanson traditionnelle de la tradition napolitaine ou sicilienne. C'était très émouvant. J'analysais pas tout ça, mais je me suis aperçu par la suite à quel point ça m'a construit.
En tout cas, la musique occupait une place véritablement centrale.
Absolument, c'était tout, c'était le cœur de la maison, c'était la musique.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Avec Bruno Messina, qui est l'invité de Musique et moi ce matin jusqu'à midi et demi. Et la musique occupait une place si centrale que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que votre père a considéré qu'il fallait que vous fassiez de la musique. Pourquoi ?
Oui, vous savez, je crois que c'était presque une façon de lutter contre cette fatalité. Avec en ayant quitté Tunis de son côté, ma mère de son côté, c'était le Maroc, et cette arrivée en France qui a été difficile, c'est là qu'ils se sont rencontrés, mes parents. Et puis il y a voilà, c'est cette histoire que tout le monde a connue, cette tout recommencer à zéro. Alors c'était déjà pas un milieu très très riche, mais en plus là il y avait plus rien avec cette arrivée en France. Et mon père considérait qu'il avait que ça, c'est-à-dire que ce soit mon père ou ma mère, ils avaient pas fait d'études, ils avaient des métiers extrêmement modestes,
comme un patrimoine.
C'était leur patrimoine, et c'était aussi la seule possibilité qu'ils voyaient d'ascension sociale. Ils se disaient, ce langage-là, c'est le seul qu'on peut communiquer à nos enfants, c'est le seul sur lequel ils sont à égalité avec les autres.
Chez Pocofa, l'acte 1 du Barbier de Séville, la cavatine de Rosine de Rossini par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Claudio Abbado, et c'était Teresa Berganza qui interprétait cet air, cette cavatine, donc Bruno Messina. Quand on pense que Rossini a composé en 2 semaines cette œuvre et qu'il avait 24 ans je crois et qu'il en était à son 17e opéra.
Ah ben, il était extraordinaire hein, ce Rossini, et puis il était joyeux, il était vivant. Moi je suis convaincu d'ailleurs que Berlioz, qui critique beaucoup Rossini, même s'il lui reconnaît quelques qualités, en fait, lui qui était si triste, Berlioz, qui avait tellement de difficultés dans sa vie, devait peut-être être un petit peu jaloux
de
cette joie rossinienne, de cette capacité aussi à se passer de musique hein, pour faire de la cuisine. Ouais. Il y a quelque chose qu'il a encore, hein, peut-être lié à l'enfance pour moi, parce que à la fois tout ça s'était adapté pour les harmonies municipales, hein, donc Rossini, les grands airs, les ouvertures, tout ça on jouait avec l'harmonie, mais il y a aussi quelque chose qui était de l'ordre de ce qui se passait dans la famille. C'est à la fois joyeux et c'est à la fois sérieux. Il y a toujours du rire derrière la chose sérieuse, et quand on travaillait la musique beaucoup, hein, vraiment beaucoup, on avait un emploi du temps à la maison très très organisé par papa, c'était plus qu'à l'école, hein. Il passait trois quarts d'heure avec un, pendant ce temps-là l'autre faisait ses devoirs, puis il passait avec l'autre, pendant ce temps-là on faisait les gammes ou les arpèges, etc. Tout était très organisé, planifié toute la semaine, le dimanche compris. Moi, entre 6 et 16 ans, j'ai passé 3 jours sans musique, c'était pour mon appendicite, parce que sinon pour le reste on jouait partout, on jouait. Si on allait voir de la famille à Marseille, de Nice à Marseille, on s'arrêtait sur les aires d'autoroute pour faire des gammes et jouer comme ça sur les parkings. Dans la période des fêtes de fin d'année, on allait jouer dans les hospices, on allait jouer partout. C'était à la fois faire la BA et à la fois c'était toujours un entraînement. Mon père voyait toujours ça comme la possibilité de se former au public et d'affronter comme ça en permanence, voilà, la possibilité de jouer devant les autres.
Donc pour rejoindre cette cavatine de Rosine, c'est la prouesse technique qui est masquée derrière une sorte de facilité comme ça. En fait, on s'entraîne, mais on donne de la joie et on donne l'impression que tout est presque donné.
Ah ben ça, il y a toujours l'intention de montrer que c'est facile, même quand ça l'est pas. Tout comme il y a toujours l'intention, et c'était le cas dans l'enfance, de montrer que tout va bien, même quand les fins de mois étaient difficiles.
Ouais, parce que justement, je me disais, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement là-dedans? C'est Teresa Berganza, cette vocalise, cette prouesse vocale, le Barbier de Séville.
Oui. Il y a tout à la fois, il y a l'Italie, il y a aussi le clin d'œil à l'Espagne, oui, de maman, bien qu'on ait, maman est originaire de la région de Malaga, même si elle a grandi au Maroc, mais on est quand même une famille très orientée vers la Sicile, c'est-à-dire c'est quand même la Sicile qui a pris la dominante familiale, parce que tout simplement maman est venue vivre avec papa, il y avait mes grands-parents siciliens qui étaient là, voilà, mais c'est tout ce sud, c'est cette Méditerranée.
C'est le bassin méditerranéen.
C'est toute la Méditerranée. Thank you.
Premier mouvement du concerto pour trompette et orchestre numéro 2 d'André Jolivet, qui dirige l'orchestre des concerts Lamoureux, et c'est Maurice André qui est à la trompette. Alors c'est un concerto très jazzy, oui. Saxophone, piano, harpe. Bon, c'est un concerto qui date de 1954, donc ça fait sens aussi de ce côté-là, Bruno Messina. Évidemment, on entend Maurice André, on se dit que vous l'avez peut-être vous aussi interprété, ce concerto.
Oui, alors pas dans les mêmes conditions, jamais avec orchestre, parce que c'était des pièces qu'on avait. Alors là, c'est au niveau du Conservatoire de Paris, donc j'y arrive à 16 ans, dans la classe de Pierre Thibault, qui était un monsieur qui a bouleversé ma vie. C'était un professeur fascinant, extrêmement dur avec les jeunes. C'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas trompettiste aujourd'hui, mais en même temps, il m'a totalement ouvert à tous les univers musicaux, au jazz, au cirque aussi. Il disait aller au cirque. C'est lui-même avait été le trompettiste de Quincy Jones, il avait été le trompettiste de Pierre Boulez, il avait été de toutes les aventures, il avait été soliste de l'Orchestre d'Israël, il avait été à l'Opéra de Paris, il avait été partout, Thibault. Et quand il n'était pas là, qu'il était en tournée, et quelquefois il invitait Maurice André, et Maurice André venait à la classe, et d'ailleurs Thibault se moquait au retour, parce que Maurice André avait tellement de facilité qu'il n'était pas si bon pédagogue. En fait, il prenait la trompette, il disait « fais comme ça, petit », mais nous, ça ne nous aidait pas à trouver la solution. Mais en tout cas, voilà, tout ce répertoire qui parfois est sous-estimé de ces années-là, en France, mérite d'être entendu, mérite d'être redécouvert, et Jolivet, moi, m'a accompagné pendant des années. Ça faisait partie des œuvres qu'on trouvait dans tous les concours d'entrée, d'orchestre aussi. Voilà, il y avait soit le concerto de Haydn pour la période classique, et c'était un enfer parce qu'on avait toujours la même chose à jouer, c'était très pénible. Et puis, il y avait le XXe siècle qui avait apporté énormément de diversité pour le répertoire des trompettistes.
Et bien sûr, cet aspect un peu jazz qui ne vous est pas étranger, Bruno Messina.
Non, qui n'est pas étranger, parce que d'abord, il y a dans la famille...
Oui, vous évoquiez
un grand-père. Mon grand-père, André, à Messine, à Tunis, oui, qui faisait danser tout Tunis. Il avait son orchestre, et c'est étrange d'ailleurs, parce que lui me racontait ça, mais ensuite, avec l'immigration, il avait fait un mauvais choix. Il était allé à Lyon, c'était des années difficiles. Pendant 2 ans, mon père, ma grand-mère l'attendaient. Ils étaient dans un camp de transit, camp de réfugiés, aujourd'hui, dans le nord de l'Italie, où ils attendaient comme ça. Et mon grand-père avait fait le choix de Lyon, où il n'y avait pas vraiment une grande vie musicale comme à Paris. Et finalement, il n'a pas pu faire son métier de musicien. Il est devenu livreur, il s'est abîmé ses mains. Et il y a eu derrière une sorte de fatalisme chez lui. En plus, les Siciliens sont enclins comme ça à la noirceur. Et il ne voulait plus entendre parler de musique. Et donc, c'était une sorte de... voilà, ce grand-père qui avait fait danser Tunis. Et un jour, il m'avait dit, quand j'ai commencé à faire mes premiers cachetons, que j'allais à la télé le dimanche chez Jacques Martin, par exemple, pour jouer, de dire, bonjour à Pino Latuca qui accompagnait l'orchestre de Bob Kibel, vous savez, l'école des fans. Et j'avais dit bonjour de la part de mon grand-père à Pino Latuca qui s'était mis à pleurer en disant « Mais il est où ton grand-père aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? On l'a perdu ?» C'était lui qui avait l'orchestre de Tunis, en effet. Et donc, oui, il y a eu dès le début, chez moi, cette envie aussi d'aller vers des répertoires autres que le seul répertoire classique, comme le jazz, la chanson. Oui, oui, oui.
Bruno Messina, je propose, comme vous venez de m'apprendre que vous parlez le javanais, que vous me fassiez la désannonce de ce qu'on vient d'entendre.
Ah, kan sedikit sulit di bilang di bahasa Indonesia, karena saya bicara bahasa Indonesia tidak bahasa Jawa.
Ah oui.
Voilà, je parle indonésien, pas javanais.
Ah d'accord, bah, merci. Donc c'est la danse de cour, hein, de Java.
Au palais du sultan de Yogyakarta, où j'ai vécu après le conservatoire de Paris, fait la classe classique, j'ai fait le jazz parce
oui,
que je cherchais
comme ça. Parler de nouvelles frontières franchies.
Voilà, oui, parce que finalement j'étais assez à l'étroit dans ce milieu classique. Il y avait sans doute aussi des complexes de classe. Tout simplement parce que ça existe
sociaux.
Oui, où c'est compliqué. Hein. Nous, on vient d'un milieu extrêmement populaire et c'était parfois compliqué, en tout cas dans notre tête. C'était peut-être pas pour les autres, mais en tout cas, ça l'était pour nous. Et voilà, et donc j'ai pensé que c'était une question de langage. Et après le classique, j'ai fait de nouveau le Conservatoire de Paris en classe de jazz. Et puis c'était encore tout aussi académique, voire plus, parce que le jazz dans le conservatoire voulait être plus académicien que les académiciens. Et donc après, je suis allé vers la variété. Puis j'ai eu cette possibilité d'aller en Indonésie. et de découvrir ce pays, cette musique. J'y suis allé pour jouer en tant que trompettiste. Et puis finalement, je suis revenu en France avec un seul souci, c'était de partir là-bas. À l'époque, je jouais avec Catherine Lara. Voilà. Et oui, absolument, qui était très, très gentille. Moi, je faisais la tournée des romantiques avec elle. Ouais. Et puis là, voilà, j'ai tout arrêté les activités à Paris pour retourner en Indonésie, m'installer là-bas, découvrir cette musique qui me fascinait. J'ai eu le prix Villa Médicis sur les murs pour mes travaux à Java. J'étais fasciné parce que c'était une musique sociale. C'était une musique qui était à la fois savante et immédiate d'accès. C'était une musique
où il y avait... Elle était dans
des petits temples comme ça dans les villages, mais les gamins en sortant de l'école pouvaient s'arrêter. On pouvait avoir 6 ans et participer au gamelan tout en ayant à côté de soi un vieux monsieur qui avait joué au palais du sultan. C'est-à-dire tout était mélangeable. La musique était vraiment un lieu d'accomplissement social, de réunion sociale, ce qu'elle n'était pas, me semblait-il, chez moi en Occident.
Vous parliez d'académisme, là, c'est vrai que du coup, il n'y a pas besoin de la technique pour pouvoir jouer, il suffit de se lancer, c'est ça ?
Oui, alors il y a des codes, il y a des règles, mais c'est une musique extrêmement savante, mais elle est décomposée, c'est comme un piano dont chacun aurait un doigt.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et donc c'est après ce séjour en Indonésie que vous vous lancez dans l'ethnomusicologie, c'est ça qui vous met le pied à l'étrier, Bruno Messina ?
Oui, ça se passe un petit peu à l'envers en fait. Ouais. C'est d'abord la découverte du pays, de la musique. J'étais jamais allé en classe de musicologie. Moi j'avais arrêté l'école à 16 ans et finalement, pour rentrer au Conservatoire de Paris, au retour de ça, je me suis dit, mais non, ça va pas, il faut que je me forme, il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc là, j'ai commencé d'abord à l'université de Nice avec des professeurs formidables. J'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Clair qui s'occupait des musiques de Turquie, Luc Charles Dominique qui s'occupait des ménétriers, qui tous les deux très vite m'ont renvoyé vers Paris, la Sorbonne, avec le professeur Picard qui lui s'occupait de la Chine. Et ça a été l'ouverture d'un monde. Je suis allé à l'école des hautes études en sciences sociales et tout d'un coup, je me suis intéressé à la musique dans son contexte. Tout d'un coup, je me suis dit, mais la musique, c'est le fruit d'un lieu, d'un moment de l'histoire, c'est le fruit d'un paysage, comme vous savez, ce doudouk arménien qui se fait en bois d'abricotier, parce que c'est le fruit de l'Arménie.
Les cloches sonnent le 14 décembre 1803, c'est le baptême d'Hector dans la belle église romane de la Côte-Saint-André. Elles sonneront encore dans la symphonie fantastique où Berlioz a souhaité de vraies cloches d'église et en imitation dans le deuxième mouvement d'Harold en Italie ou le convoi funèbre de Juliette. Les cloches disent l'appartenance à la communauté villageoise et spirituelle. Elles ne se sont jamais tues à la Côte-Saint-André, sauf un instant peut-être durant la terreur. Je vous cite Bruno Messina dans votre biographie de Berlioz parue chez Actes Sud parce qu'on vient d'écouter la symphonie fantastique de Berlioz, interprétée par Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth. Mais évidemment, en lisant cet ouvrage sur Berlioz, on n'entend plus la symphonie fantastique de la même manière.
Oui, peut-être parce que j'ai la conviction qu'on n'a pas tout dit sur cette symphonie fantastique. Vous savez, c'est une symphonie à programme, c'est-à-dire que Berlioz nous raconte une histoire. Il nous dit premier mouvement ceci, deuxième mouvement cela, etc. Et c'est pas, on nous donne pas de ville, on nous dit pas où ça se passe. Et évidemment, dans un jacobinisme bien français, on a toujours considéré que c'était à Paris. Ouais. Or, en fait, c'est pas situé. Et on peut tout transposer dans le Dauphiné. Et ça, c'est assez extraordinaire, et donc je me suis un petit peu amusé à le faire jusqu'à imaginer que le supplice, la marche au supplice, ça pourrait être celui de Mandrin, vous savez, le grand contrebandier de notre histoire de France, parce que du village de la Côte-Saint-André, on voyait le village de Saint-Étienne de Saint-Jouard, d'où était originaire Mandrin. Voilà, et ça, cette symphonie fantastique qu'on vient d'entendre me touche particulièrement parce que c'est une étape importante dans ma carrière, quand j'ai finalement quitté le métier de musicien pour faire jouer les autres. J'ai été directeur de la Maison de la Musique à Nanterre, et puis est arrivé après quelques années ce festival Berlioz, cette installation en Isère, et j'ai amené dans l'aventure avec moi, dès le départ, François-Xavier Roth, avec Les Siècles, avec qui on avait commencé déjà ensemble, hein, dès la Maison de la Musique en Isère, c'était le tout début de cet orchestre Les Siècles, qui jouait sur instruments d'époque, c'était pas si courant sur le répertoire du 19e siècle. On a vu aujourd'hui, grâce à tout le travail qui a été fait par ces musiciens, qu'il y a une spécificité aussi à jouer ce répertoire-là. Moi j'aime les deux, je suis pas du tout dogmatique, mais je trouve intéressant de faire sonner comme ça Berlioz, parce qu'on se rend compte aussi de tout ce que pouvait être le son à cette époque et qu'il a quand même été beaucoup modifié. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu au festival fondre de vraies cloches d'église pour la symphonie fantastique, parce que Berlioz veut de vraies cloches.
Mais c'est là que l'ethnomusicologue dont on parlait tout à l'heure revient, c'est-à-dire que vous recontextualisez, on a l'impression que vous redonnez sens à la musique de Berlioz aussi par son essence et par sa naissance.
Parce que Berlioz, comme nous tous, on est le fruit de notre enfance. Et la plupart des biographes font commencer la vie de Berlioz à Paris, quand il arrive pour faire médecine, quand il a 18 ans et qu'il va aller vers l'opéra. Mais de 0 à 18 ans, on nous raconte rien. Or, il est dans la ruralité, il est dans une famille tout à fait étonnante, avec un père singulier qui a introduit l'acupuncture en France. C'est pas rien, c'est déjà un original, le papa de Berlioz. Et il grandit dans ce milieu, il a pas d'éducation musicale. À 12 ans, il commence en jouant de la flûte populaire, une flûte de berger. Il va en musique parce qu'il est amoureux. D'ailleurs, il va être amoureux tout au long de sa vie. C'est presque pathologique chez lui. Et donc, il est tout à fait singulier, ce Berlioz, dans l'histoire de la musique. Et je voulais, en effet, le raconter comme un Indien dans son village. C'est-à-dire raconter toute la vie du village autour pour comprendre Berlioz, qui dansait le rigodon, ce qui se passait dans les salons le dimanche et ce qu'était ce milieu agricole dans lequel il a grandi.
Nuit d'ivresse et d'extase infinie, un extrait de l'acte 4 des Troyens de Berlioz avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de John Nelson. On a entendu Michael Sparis, Joyce DiDonato et Jean Tedgen. Bruno Messina, voilà, on continue avec Berlioz. Et j'ai envie de vous demander, avant qu'on en revienne à la fois au festival et à la biographie, comment vous êtes tombé dans Berlioz, à part le fait que vous ayez pris ce poste.
Oui.
On dirait que vous êtes tombé dedans comme dans la potion magique, quoi.
Oui, alors c'est un mélange, c'est curieux. À la fois dans le peu de disques qu'il y avait à la maison, quand on était gamin, il y avait un rôle en Italie, je me rappelle, un vinyle avec une couverture rouge, Colin Davis. Et ça m'avait fasciné un rôle en Italie parce que c'était une sorte de concerto pour alto, mais qui n'était pas un concerto, c'était une symphonie avec alto solo. Et il y avait une mise en retrait du soliste qui n'était pas du tout le coq qu'on demandait aux trompettistes d'être devant l'orchestre, etc. Berlioz avait ce don comme ça de faire dialoguer et de fondre le soliste dans le peuple, dans la foule de l'orchestre. Donc ça m'avait fasciné, mais j'y pensais pas plus que ça. Et après, c'est une sorte de hasard, c'est-à-dire que j'étais directeur de la Maison de la Musique à Nanterre. À un moment, pour des raisons personnelles, familiales, j'ai voulu quitter Paris et j'ai ouvert Télérama. Il y avait des annonces. Je me suis dit, tiens, je vais candidater à la première qui va m'intéresser. Et c'est comme ça, tout simplement, que je me suis retrouvé en route pour l'Isère, que j'ai découvert cette équipe, ce festival, ces bénévoles. On a 150 bénévoles au festival, c'est extraordinaire. Il y a tout un village qui vit autour de ça. Et puis, il n'était pas prévu que j'y reste aussi longtemps, mais en fait, j'y suis tellement bien que l'histoire a duré.
Et ce hasard qui vous conduit vers un compositeur que vous nous révélez visionnaire, autodidacte, fragile, drôle, intraitable. Alors, vous n'êtes pas du tout ça, mais on sent qu'il y a des points de convergence avec vous, Bruno Messina, c'est étonnant.
Oui, mais je sais pas, c'est toujours difficile à dire et à se regarder. Intraitable, je pense pas l'être tant que ça. Drôle, parfois, j'espère.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
On parle avec vous, Bruno Messina, de vos goûts musicaux, mais également, bien sûr, de Berlioz, puisque vous portez, enfin, le ministère de la Culture vous a donné la main pour porter l'anniversaire de la mort de Berlioz.
Oui, alors je suis pas tout seul, hein, parce qu'heureusement, heureusement, la Philharmonie de Paris avait prévu une très belle programmation Berlioz, l'Opéra de Paris monte les Troyens, et ça, c'est admirable. Et vous savez, il y en a partout en France, il y a plus de 250.
Nous aussi, ici, à France Musique, évidemment.
Absolument, France Musique va célébrer Berlioz, et j'en suis très heureux. Il y a plus de 250 concerts Berlioz en France. En fait, c'est être un petit peu l'animateur, c'est un petit peu dire aux gens pourquoi il faut aller Berlioz, pourquoi il faut l'aimer, pourquoi il faut aller le découvrir. Parce que finalement, cet homme est totalement singulier dans l'histoire de la musique, parce qu'il bouleverse les formes, parce qu'il y a un avant et un après Berlioz, parce qu'il invente l'orchestre moderne. Il n'y a pas Ravel, il n'y a pas Bernstein sans Berlioz. C'est celui qui donne aux petits instruments de l'orchestre une place prépondérante. Il va mettre l'harmonie en avant, que ce soit les bois, le hautbois, la clarinette doivent tant à Berlioz dans l'orchestre. Alors, il est le premier à s'apercevoir de cet instrument qu'Adolphe Sax, son copain, invente ça. Il annonce déjà que ce sera l'instrument du siècle prochain. Il est le premier à utiliser le saxophone. Berlioz est totalement visionnaire. Il écrit formidablement bien. C'est un journaliste. Il commente toute la musique de son temps. Il écrit de la science-fiction. Berlioz, il y a Euphonia, une ville musicale en 2344. C'est orwellien. C'est 100 ans avant Orwell. Et déjà, il invente une ville organisée, contrôlée, etc. Mais pour la musique, pour le bienfait des gens, pour leur bien. C'est incroyable, l'invention de Berlioz, et puis le fait qu'il soit encore, alors il y a eu énormément de progrès, mais si peu connu en France, alors qu'il était adoré de son vivant en Angleterre, en Allemagne, en Russie. Il triomphait en Russie. Il est quand même temps que les Français le découvrent.
Et vous allez y œuvrer largement, Bruno Messina.
Thank you.
un extrait des trois petites liturgies de la présence divine de Olivier Messiaen, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et la maîtrise de Radio France. Pour tous les renseignements concernant les interprètes, c'est sur le site de francemusique.fr. Bruno Messina, Messiaen, voilà un compositeur que vous côtoyez maintenant quotidiennement, en fait.
Oui, que je côtoie, à l'instar de Berlioz, en effet, qui est entré comme ça dans mon univers grâce à Gaëtan Puot, qui avait créé ce festival Messiaen au Pays de la Mèche, et qui, lorsque j'ai résolu avec la Fondation de France le legs de Messiaen, qui avait laissé une maison en Matézine, où il avait écrit son œuvre, finalement, on s'est rapprochés. Il avait ce petit bijou dans la montagne, au pied d'un glacier, et j'ai trouvé ça fascinant. Et voilà, ce monsieur a arrêté. Après 20 ans avoir porté ce festival, il est venu me chercher. Et c'est une grande chance, à la fois parce que la musique de Messiaen est une musique très dense, qui est pas toujours facile d'accès.
Et plus, ça, j'aime bien que vous le disiez, parce que c'est important aussi de se dire que c'est pas toujours simple.
Mais vous savez, la musique, tout n'est pas facile, et puis tout n'est pas pour tout le temps. Voilà, c'est un peu comme dans les ragas. Il y a les ragas du soir, les ragas du matin. Moi, les gens, ils pensent que j'écoute du Berlioz ou du Messiaen du matin au soir. Certainement pas. Ce serait dommage qu'on soit comme ça dans le rapport à la musique. Mais il y a des choses extraordinaires. Alors, au début, les ondes Martenot, cette façon qu'a Messiaen, comme ça, de mettre des couleurs dans la musique. Alors, il y a tout ce texte biblique aussi avec Messiaen, qui est toujours là, très présent. Il y a les oiseaux.
C'est tout un monde.
Il était très, très croyant. Il était très investi dans son catholicisme. Il y avait les oiseaux aussi, la figure de Saint François. Moi, je trouve que c'est un festival incroyable que j'ai la chance de porter maintenant, parce que c'est un festival écologique aussi, parce que la figure de Saint François, les oiseaux, on est au pied d'un glacier qui est en train de fondre et on défend de la musique comme ça. C'est quelle chance, quoi, quel bonheur.
Et donc, ces trois petites liturgies de la présence divine, c'est aussi une œuvre que vous avez mis du temps à savoir savourer.
Oui, parce qu'au début, je ne savais pas par où le prendre, mais si, c'était compliqué. Il y a une sorte d'avalanche comme ça de sons, de musique, de couleurs. Il y a des choses qui pouvaient parfois me sembler curieusement faciles, d'autres plus difficiles, les vers regards sur l'enfant Jésus, c'était je décrochais au début, et aujourd'hui c'est une œuvre qui me fascine totalement, et je comprends que certains pianistes, des immenses pianistes comme Chamaillou, comme Roger Muraro par exemple, qui a tellement travaillé avec Yvonne Loriot, la femme d'Olivier Messiaen, veuillent jouer tout ça sans une pause. On est tenu, on est pris comme ça aux tripes par cette musique, c'est très beau.
Thank you.
Patrick Messina avec l'Orchestre National de France sous la direction de Riccardo Muti, interprété cet adagio du concerto en La majeur, Köchel 622 de Mozart. Bruno Messina, votre frère en fait. Hein,
oui. Et oui, c'est mon frère.
Magnifique interprétation dont vous êtes fier, je crois.
Ah ben oui, je suis fier, oui. On est, vous savez, on est comme ça, hein, ça c'est très sicilien. Ma grand-mère, elle était fière, elle se levait pendant les concerts, elle disait « c'est mon petit-fils, c'est mon petit-fils ». Voilà, oui.
Et cette histoire de famille, parce qu'on a beaucoup parlé de la oui. famille, continuer comme ça dans ces chemins musicaux parallèles, où vous, d'un côté, vous avez quitté l'interprétation et votre frère reste interprète. Votre sœur, je crois, enseigne la flûte.
Absolument.
De la part de vos parents, c'est une fierté ?
Oui, je crois qu'ils sont contents et puis ils n'ont pas le souci... de savoir ce qu'on deviendrait désormais. Ils sont contents parce qu'on est musicien et c'est ce qu'ils souhaitaient. Finalement, ça s'est bien passé de ce point de vue.
C'est rare des parents qui souhaitent que leurs enfants soient saltimbanques.
Oui, et en même temps, pour eux, c'était l'ascension sociale et c'était la possibilité d'un vrai métier, d'une vraie vie. Et ils nous ont permis, moi, je me rappelle, quand on était tout petit, on était à l'Ariane, qui est une banlieue de Nice qui était très dure. Et parfois, quand on bossait tellement, on disait à papa, c'est dur. Et papa disait, mais vous verrez, à 20 ans, vous ferez le tour du monde. Et en fait, ils ne nous avaient pas menti.
Au point que vous soyez allé jusqu'à l'Indonésie, Bruno Messina. Oui. On va se quitter avec une étoile. On peut dire ça comme ça, en tout cas.
Oui, l'étoile, la bonne étoile. Ouais. Et puis, oui, c'est la Méditerranée, c'est Renate Loranaise, parce que c'est aussi des années, pour moi, magnifiques. Il y a plein de choses qui se croisent. La question des origines, la question de la Méditerranée, la question de l'intermittence, la question de l'époque où j'étais musicien, où je faisais les bals, je faisais les mariages.
Et vous interprétiez ce genre de musique.
Ah bah oui,
il y avait
tout un répertoire oriental. Pendant des années, j'ai vécu avec ça, quand j'étais intermittent, tout ce répertoire oriental. Et on l'a fait beaucoup sur la Côte d'Azur, mais de Vienne à New York, on faisait ça un petit peu partout.
Avec un orchestre.
Des années très heureuses avec un orchestre de bal, oui. Mmh. Oui, oui, absolument.
Et qui symbolise l'étoile. Mazal hay mazal. Merci Bruno Messina. On va se quitter maintenant. Merci pour cette heure et demie en votre compagnie, compagnie de Berlioz. Je rappelle aux auditeurs que la biographie de Berlioz a paru chez Actes Sud et que vraiment on se régale à découvrir ce compositeur méconnu, mais que grâce à vous et à cette célébration du 150e anniversaire de sa mort, nous allons redécouvrir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt.
Au revoir.
المجال زي حي زي حبيب القمر اشتر هذا المجال يطير مقبل ينفعنا نعي بدوا ورح لومي الغير صب صبر كيس مرضي أبد في التصفير هكذا يشكي للمتعل
Mazal Hay Mazal pour terminer cette émission en compagnie de Bruno Messina, qui était donc l'invité de Musique et Moi. Bruno Messina, dont le livre Berlioz, paru chez Actes Sud, vient d'être publié. Je vous invite à aller sur le site de francemusique.fr pour retrouver toutes les informations concernant cette émission. Un grand merci à Marie Le Peintre, qui était à la prise de son. Et cette géniale équipe est constituée de Sophie Pichon et de Marie Ferdinand. On se retrouve dimanche prochain à 11h. Très belle semaine à vous.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.